Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Éclairage en coproduction avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, je vous propose de vous promener en bord de Loire pour observer la loutre et le castor, deux espèces semi-aquatiques qui recolonisent peu à peu ce fleuve. Et grâce à des campagnes de conservation, on va en parler en compagnie de notre invité Emmanuel Sarra. Emmanuel Sarra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en charge de la coordination du réseau mammifère du bassin de la Loire. Nous allons donc parler de la loutre et du castor. La loutre est un animal solitaire, le castor vit plutôt en famille. La loutre est un carnivore et le castor est plutôt un rongeur, deux animaux a priori assez différents. Pourquoi ces deux espèces avaient-elles pratiquement disparu, Emmanuel Sarra?
Alors les deux espèces ont été chassées pour leur fourrure pendant de nombreux siècles. La fourrure du castor et de la loutre est très appréciée par sa qualité. Ce sont deux espèces qui ont une densité de poils très importante et la valeur de la fourrure était importante. Donc, elle a été chassée pendant longtemps et ce qui a mené du coup à sa raréfaction sur l'ensemble du territoire français. Il faut savoir que les deux espèces étaient donc largement réparties en France et plus largement en Europe.
Donc, effectivement, le castor réparti sur tout le territoire français, la loutre aussi. Aujourd'hui, où trouve-t-on le castor et où trouve-t-on la loutre?
Alors, le castor est présent donc dans la vallée du Rhône, sur le bassin de la Loire et aussi dans le nord-est de la France. Donc, le castor, il faut savoir qu'il a fait l'objet de réintroduction. Donc, il a quasiment disparu au début du XXe siècle. Il était présent uniquement dans la vallée du Rhône. Et à partir des populations qui restent dans la vallée du Rhône, on a fait des réintroductions sur l'ensemble du territoire, donc sur le bassin de la Loire dans les années 70, mais également dans le nord-est de la France. Et la loutre, donc elle a disparu aussi quasiment l'intégralité du territoire, mais elle a disparu plutôt vers les années 1970. Et donc là, la loutre a réussi à former, si vous voulez, des populations relictuelles, donc des bastions qui ont conservé des populations de loutre, donc à savoir le Limousin et la façade atlantique. Et donc c'est à partir de ces populations-là que la loutre elle a pu recoloniser son territoire, par contre sans intervention de l'homme.
Je vous propose de nous intéresser au castor. Vous nous disiez donc effectivement que le castor et la loutre d'ailleurs avaient pratiquement disparu de nos territoires et restaient donc des zones résiduelles. Quelle est l'histoire du castor et à partir de quand sa chasse a été interdite pour pouvoir après partir sur des plans de conservation et de réintroduction de cette espèce?
Alors les premières interdictions de chasse du castor ont été mises en place dans la vallée du Rhône donc en 1909. Donc c'était la première espèce qu'on protégeait en France. Et ensuite, si vous voulez, la protection de l'animal a grandi. Donc d'abord on interdit sa chasse, ensuite elle a été interdite de chasse au niveau national en 1968. Ensuite, en 1980, un arrêté ministériel a rendu ça légal. Et puis en 2007, un nouvel arrêté ministériel, donc national, a permis non seulement de protéger l'espèce, mais aussi son environnement. Donc tout le territoire qu'elle occupe et dont l'espèce a besoin pour se reproduire, se déplacer, etc.
Vous me disiez en préparant cette émission que le castor était chassé, était un animal très chassé, également pour sa chair, pas seulement pour sa fourrure, et cela dès le Moyen-Âge. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Alors, le castor donc, est une espèce qui vit dans l'eau. Pendant très longtemps, les gens ont cru que l'espèce était carnivore et mangeait du poisson, alors que c'est une espèce intégralement herbivore. Et en plus, la queue du castor est recouverte d'un cuir sur lequel sont imprimées des écailles. Donc c'est pas des écailles, mais ça donne une impression d'écaille. Et du coup, les gens pensaient que c'était assimilable à du poisson. Et donc à l'époque, le vendredi, on devait manger du poisson. Et donc ça arrangeait tout le monde de pouvoir manger du castor, qui était donc toléré ce jour-là. Donc ça a fait partie des raisons pour lesquelles le castor a été chassé.
Une des raisons, donc vous nous le disiez aussi au début de cette émission, chassé bien sûr pour sa fourrure et puis également chassé pour des principes actifs utilisés en pharmacie, une glande qui produit du castoreum, c'est ça?
Oui, voilà.
Est-ce que vous pourriez aussi nous en dire deux mots?
Ce sont deux glandes qui sont situées au niveau de l'anus du castor, donc qui contiennent de nombreux composés pharmaceutiques. C'est très très riche, il y a plus de 50 substances, dont le plus connu qui est donc l'acide salicylique, puisque le castor mange du saule, etc. Donc l'acide salicylique qui est utilisé notamment pour l'aspirine.
Voilà, l'aspirine.
Voilà. Donc cette substance-là a été recherchée aussi en cosmétique, pour les parfumeries, etc. Donc on tirait aussi une utilisation de ces glandes-là. Et sinon, dans la nature, le castoreum sert au castor à marquer son territoire. Donc en fait, de part et d'autre de la rive du cours d'eau qu'il occupe, il va faire des bornes à castoreum, donc il va malaxer de la terre avec ses pattes, et il va déposer du castoreum pour informer la famille d'à côté, voilà, maintenant c'est mon territoire, c'est ma limite. Et il se sert aussi de cette glande pour imperméabiliser son pelage, puisque le castor passe de nombreuses heures à nettoyer son pelage pour l'imperméabiliser, le protéger, puisque c'est hyper important pour lui d'avoir une fourrure imperméable qui le protège du froid, des bagarres, etc.
Justement, arrêtons-nous sur le territoire. Le castor vit dans les rivières ou en bord de rivière. Comment vit-il en fait? Il vit en famille, il construit à longueur de journée. Quelle est la journée type d'un castor?
Alors, le castor, donc, il vit en famille. Donc, en général, une famille de castors est constituée donc des deux parents adultes, des jeunes de l'année et des jeunes de l'année précédente. Donc, en moyenne, on a entre 4 et 6 castors par territoire. Donc, ils occupent un territoire entre 500 mètres et 3 km de cours d'eau. Et donc, sur ce territoire, ils vont trouver toutes les ressources qui sont nécessaires à leur quotidien. Donc, des ressources en nourriture. Ils vont avoir une préférence pour les salicacées, donc des bois tendres comme le peuplier, le saule. Ils vont avoir aussi donc un terrier. En fonction de la configuration du site qu'ils occupent, ce terrier peut être creusé dans la berge, invisible puisque l'entrée est toujours sous l'eau, ce qui assure une bonne protection au castor. Ou alors, si la berge ne le permet pas de creuser, le castor va construire une hutte, donc c'est-à-dire qu'il va couper plein de petits morceaux de bout de bois et il va se faire une construction, un terrier en fait en dehors. Et souvent ce qu'on observe, c'est un peu un mélange des deux, donc c'est ce qu'on appelle des terriers-huttes, à la fois un terrier qui a été creusé, mais avec l'érosion des berges ou le temps, ce terrier peut un peu s'effondrer et du coup le castor va réparer son terrier en mettant des branches pour le camoufler. On peut dire aussi parfois que le castor jardine, puisqu'il va aller couper des branches de saule ou de peuplier aux abords des cours d'eau. Et le fait de couper ces branches, ça va enclencher un recépage en fait du saule et du peuplier. Et donc souvent dans les zones à castor, on trouve des champs avec des peupliers et des saules taillés qui redrajeunent chaque année, qui rebourgeonnent, ce qui fait qu'il entretient en fait sa ressource de nourriture.
Donc en fait c'est très intéressant ce que vous nous dites. On pourrait penser que dans les aspects, on va dire un peu moins positifs du castor, ça occasionne des dégâts pour ces arbres qui sont rongés, coupés. Et en fait, pas forcément, puisque c'est l'occasion pour ces arbres de bourgeonner.
Exactement, puis il faut savoir aussi que les activités du castor dans son milieu vont modifier un peu les caractéristiques de l'écosystème, parce qu'en par exemple, en abattant de gros arbres, va changer l'apport de lumière au sol, et il va en fait modifier la structure de la ripisylve. Donc il peut rajeunir en fait la ripisylve et donner la place à d'autres espèces qui auront besoin de moins d'ombre, d'un sol plus chaud, etc. Et tous les arbres qui sont abattus par le castor sont aussi une source de nourriture pour d'autres espèces. Donc par exemple, tous les insectes qui vont se nourrir du bois mort vont pouvoir trouver leur place. Les chauves-souris vont pouvoir s'héberger dans les cavités de ces arbres morts, etc. Donc ça va apporter une faune, une flore plus diversifiée que dans un milieu qui ne sera pas du tout touché par le castor.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des limites à cette réintroduction?
Alors si vous voulez, donc, le castor a été réintroduit sur la Loire dans les années 70, donc par des associations de protection de la nature, donc sur la Loire en amont de Blois. La colonisation de la Loire, en fait, s'est faite en plusieurs étapes. À partir des premiers individus qui ont été relâchés, ils se sont bien installés, ils ont occupé les sites les plus favorables pour eux, donc les très belles portions de Loire avec des îles, des ressources alimentaires importantes. Ensuite, quelques années plus tard, comme les plus beaux coins de la Loire, entre guillemets, étaient pris, les autres castors ont commencé à boucher les trous. Et là, on est vraiment dans une troisième phase de colonisation, donc aujourd'hui, où la Loire est entièrement colonisée et où les castors vont commencer à coloniser des plus petits affluents qui vont présenter des biotopes un petit peu moins adaptés pour eux. Donc, c'est-à-dire avec moins de ripisylve naturelle, des cours d'eau beaucoup plus petits, moins profonds, etc. Et donc, le castor est malin, donc pour s'adapter à son nouveau territoire, il a la capacité de construire des barrages qui vont donc remonter le niveau de l'eau de son territoire et qui vont lui permettre d'atteindre des arbres un peu plus loin pour lui. Sachant que le castor est très malhabile sur la terre et qu'en général, il se déplace jamais à plus de 30 mètres sur une rive. Voilà, donc remonter le niveau de l'eau, ça va lui permettre d'avoir un accès rapide à la nourriture et puis aussi de pouvoir fuir rapidement en ayant un accès à l'eau très rapide pour s'en aller.
Justement, les barrages, vous en parliez à l'instant, est-ce que ça pose des soucis d'inondation ou aujourd'hui on arrive à trouver des techniques pour limiter ces risques d'inondation?
Alors les barrages font un peu l'actualité avec les castors en ce moment, parce que pendant des années on a pensé que le castor d'Europe ne construisait pas de barrages, mais si si, il en construit très bien même, donc ça provoque quelques inondations. C'est pas des inondations très importantes. La plupart du temps, ça inonde des parcelles agricoles ou des parcelles de populiculture, par exemple. Donc, l'ONCFS a testé plusieurs méthodes pour mettre en fait des siphons dans les barrages pour pouvoir faire baisser le niveau de l'eau. L'objectif étant de concilier la présence du castor et les activités humaines. Donc on a fait plusieurs expériences qui n'ont pas toujours été des réussites, sachant que le castor est très malin, il se rend bien compte qu'on a mis un siphon dans son barrage, donc il va aller reboucher le siphon à plusieurs reprises avec des feuilles, des branches, etc. Ou alors il déserte le barrage mais il en construit un en amont, donc le problème est toujours là. Et donc là, le compromis qu'on a trouvé dans certaines communes, c'est d'installer un siphon, mais de passer des conventions avec les mairies pour que celles-ci s'engagent à entretenir le siphon, donc à venir régulièrement enlever les branches qui ont été soit mises par le castor, soit amenées par le courant, pour que le siphon puisse fonctionner. Donc là, on a des régions où on a pu concilier à la fois l'agriculture, parce que souvent c'était des zones de pâturage où des vaches ne pouvaient plus pâturer, et la présence du castor. Donc on a encore beaucoup d'expériences à faire, à monter, avec des communes qui sont volontaires et qui veulent garder le castor sur leur commune, puisque c'est quand même un atout pour le tourisme et pour les habitants.
Mais vous parlez de siphons, c'est vrai qu'on peut se demander si la présence humaine répétée, notamment pour nettoyer les siphons, n'est pas aussi un risque de désertion des castors pour aller construire des barrages un peu plus loin.
Il y a deux types de castors. Il y a les castors ruraux, on va dire, et puis les castors urbains. Ils sont très tolérants à la présence de l'homme. À Orléans, il y a une famille qui est installée sous le pont principal de la ville, qui se porte plutôt bien et qui tolère tout à fait l'homme. En fait, ils n'ont pas de prédateur à part l'homme, donc quand celui-ci ne lui veut pas de mal, en général, il n'est pas forcément effarouché.
Il y a une espèce qui ressemble étrangement au castor, c'est le ragondin. Alors racontez-nous son histoire. Est-ce qu'elle est en concurrence, cette espèce d'ailleurs, avec le castor?
Alors le ragondin, donc, c'est une espèce exotique qui a été donc introduite à partir d'Amérique du Sud au début du XXe siècle, donc qui a été ramenée à Paris, qui a été acclimatée au Jardin des Plantes. Et puis ensuite, le ragondin a été intéressant pour tout ce qui était fourrure, parce que donc au début du XXe siècle, la grande mode c'était la fourrure, et l'industrie et le commerce de la fourrure étaient en pleine forme. Et donc, pour pouvoir fournir des qualités et des quantités de fourrure importantes et à bon marché, on s'est intéressé au ragondin. Donc, des élevages de ragondins ont été mis en place un peu partout en France. Et comme dans certains élevages, les ragondins ont pu s'échapper et s'installer dans le milieu naturel. Donc aujourd'hui, le ragondin, c'est une espèce qui a des capacités de reproduction beaucoup plus importantes que le castor, puisqu'il peut faire plusieurs portées par an, qui est herbivore mais qui s'installe un peu partout. Et du coup, l'espèce a colonisé l'ensemble du territoire français. Donc le castor ne rentre pas vraiment en compétition avec le ragondin, puisqu'il est quand même beaucoup plus gros, qui marque bien son territoire, qui le défend. En général, il le tolère. Donc on peut croiser du ragondin et du castor sur le même site, mais on peut pas dire qu'il y a vraiment une concurrence pour les ressources qui sont importantes. Par contre, là où le ragondin pose problème avec le castor, c'est quand le ragondin est régulé, parce qu'il est déclaré donc comme nuisible et exotique envahissant, donc on peut le capturer dans des cages ou le tirer dans l'eau, etc. Et il y a des risques de confusion avec le castor, puisqu'à la nage, les deux espèces ne sont pas forcément différenciables. Donc on dit qu'à la nage, le castor, quand il nage, on voit uniquement sa tête qui dépasse. Il a des oreilles un peu beaucoup plus petites que le ragondin. Et le ragondin, le dos dépasse et il a des moustaches, des vibrisses qui sont blanches et qui seront plus visibles. Donc il faut former les piégeurs et les chasseurs à la reconnaissance et la différenciation des deux espèces pour éviter les accidents. Et puis pour les piégeurs, en général, avec la queue du castor, on différencie tout de suite ragondin et castor, donc il y a moins de problèmes. Et puis il faut savoir que pendant longtemps, on a éliminé le ragondin avec des méthodes chimiques, donc avec des appâts empoisonnés, avec des anticoagulants, qui avaient des dommages sur castor, qui venaient aussi se nourrir. Donc ça a été interdit en 2007. Donc maintenant, la capture de ragondin se fait uniquement par cage. Donc les piégeurs sont formés, et dès qu'ils voient un castor, ils le relâchent et il y a moins de problèmes.
Le système de piégeage par cage, c'est justement pour éviter les confusions et de faire un prélèvement de castor.
Oui, de toute façon, c'est pour faire un piégeage sélectif, pour éviter que ce soit le castor ou d'autres espèces. La loutre aussi peut se retrouver piégée dans ces pièges-là.
La transition est toute trouvée, merci. Venons-en à la loutre, Emmanuel Sarah. Donc, autre espèce à laquelle vous portez votre attention. Je crois que son interdiction de chasse remonte à 1972, donc c'est relativement récent, on va dire. Quelle était la situation en fait de la loutre à cette époque-là et comment petit à petit ont été recolonisés les espaces par la loutre?
Alors dans les années 70, les populations de loutres étaient très affaiblies, donc il en restait sur deux zones, donc la façade atlantique, donc tout ce qui est marais, Poitevin, etc., et le Limousin. Donc c'était des populations qu'on appelait relictuelles, donc avec quelques individus qui avaient maintenu un noyau de population. Et donc c'est en effet l'interdiction de la chasse donc dans les années 70, donc 1972, qui ont permis à l'espèce de pouvoir se reproduire à nouveau correctement et pouvoir reconquérir ses anciens territoires. Et il y a une autre avancée qui a permis aussi à la loutre de revenir sur le territoire, c'est l'interdiction du piège à mâchoire en 1994. Un piège à mâchoire qui était posé dans les coulées de loutre, donc les passages empruntés par la loutre et où elle se faisait piéger régulièrement.
Malgré l'interdiction de la chasse en 1972, oui, il restait quand même les pièges à mâchoire.
Voilà.
La loutre, est, au contraire du castor, vit de manière plutôt solitaire, elle, et puis sur des espaces beaucoup plus étendus.
Alors la loutre va fonctionner sur un mode individualiste, donc des individus qui sont répartis sur des territoires beaucoup plus importants que le castor. Donc une loutre mâle donc, peut avoir un territoire en linéaire de cours d'eau d'environ 15 km, et ce territoire peut couper le territoire de plusieurs femelles. Et donc ils vont se rencontrer avec la femelle uniquement pendant la période de reproduction pour quelques jours, et puis ensuite le mâle reprend sa vie et la femelle élève seule les petits.
Vous nous disiez au cours de l'émission, Emmanuel Sarah, qu'une des raisons de la baisse du nombre de loutres était bien sûr la chasse, notamment la chasse pour la fourrure, mais également j'imagine qu'il y a des questions liées aux produits phytosanitaires, pesticides, insecticides qui se retrouvent dans les eaux et qui pourrait justement éliminer la loutre de certains territoires ?
Oui, alors pendant longtemps, on a assimilé la loutre à de bonnes qualités chimiques des eaux. Et donc, dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, il y a une étude qui a été menée donc, par Charles Marchand, Philippe Berny et René Rezou sur l'impact et l'écotoxicologie qu'on pouvait retrouver chez la loutre. Donc, ils ont analysé à partir de cadavres de loutres, donc des loutres qui avaient été victimes de collisions routières, qui ont été récoltées à travers un réseau de l'ONCFS et puis des associations de protection de la nature, qui ont été donc fournis au laboratoire pour analyse. Donc à partir de ces loutres, on a prélevé différents échantillons de tissus et ont été analysés la quantité donc de pesticides, d'insecticides, de métaux lourds, enfin tout type de contaminants qu'on pouvait retrouver dans le tissu des loutres. Et donc il s'est avéré que toutes les loutres qui ont été analysées avaient la présence de contaminants dans leur tissu. Et donc les rivières où la loutre se développe sont contaminées. La loutre n'a donc pas forcément une image d'eau pure au niveau chimique et sans contaminants. En revanche, la loutre elle a besoin d'avoir une ressource alimentaire suffisante pour se développer. Et donc elle mange principalement des poissons. Donc elle va préférer des cours d'eau riches en poissons. Donc des cours d'eau qui sont en bonne santé biologique, pas extrêmement pollués. Sinon,
indirectement, voilà. Peu pollués par rapport à d'autres cours d'eau. La loutre s'est recolonisée d'elle-même ?
Alors, il y a eu une tentative de réintroduction en Alsace. Donc avec quelques individus qui n'a apparemment pas bien fonctionné. Parce que pour être sûr qu'une réintroduction fonctionne, il faut partir avec un stock d'individus qu'on va réintroduire suffisant et un milieu accueillant pour l'espèce. Et là, il n'y a pas eu assez de loutres en fait, qui ont été réintroduites, donc la réintroduction n'a pas marché. En revanche, sur l'ensemble du territoire français, la loutre revient d'elle-même, en lien avec les interdictions de chasse et de piégeage.
Aujourd'hui, donc j'imagine que vous travaillez avec toute une équipe justement sur ces deux espèces, les castors et la loutre. Quelles sont vos études actuelles et quels sont vos objectifs pour les années à venir sur ces deux espèces ?
Alors, un gros travail qui a été réalisé, c'est déjà faire un état des lieux, un état des connaissances, donc de la répartition de ces espèces sur le bassin de la Loire, parce que de nombreuses structures travaillaient dessus, donc les associations, l'ONCFS, etc. Mais chacun avait des méthodes de prospection sur le terrain qui leur étaient propres, et du coup, on n'arrivait pas à avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble du bassin. Donc le premier travail, ça a été de réunir tous ces acteurs et de leur demander de mettre en commun leurs données pour qu'on puisse donner une répartition globale de ces deux espèces sur le bassin. Et donc le bassin de la Loire, c'est 1/5 du territoire français, 30 départements. Donc chacun des acteurs a participé à l'élaboration de ces cartes. Et connaître la répartition d'une espèce, c'est pouvoir aussi mieux la protéger et aussi gérer les aménagements du territoire qui peuvent l'impacter. Donc quand on sait qu'une loutre est présente sur un cours d'eau ou un castor et qu'on prévoit des travaux, etc., ça permet d'expliquer aux gestionnaires ou aux personnes qui vont réaliser les travaux comment faire en sorte de concilier les activités humaines et la présence du castor et de la loutre. Donc c'est par exemple aménager des passages sous les routes où on sait qu'il y a de la loutre et des problèmes de collision routière, permettre au castor d'avoir des rives sur lesquelles il aura de quoi se nourrir, donc replanter des saules, faire en sorte qu'on ait une ripisylve en bonne santé pour l'espèce, etc. Et donc tous ces éléments, ça permet aux décideurs, donc à l'État, notamment les directions régionales de l'environnement et du logement, les directions départementales des territoires, les agences de l'eau, d'intégrer ces espèces dans l'aménagement du territoire pour minimiser les impacts sur les populations.
Au-delà de la politique de conservation, ce sont deux espèces qui pourraient potentiellement redevenir chassables ou qui resteront toujours dans la liste des animaux à préserver.
Alors pour l'instant, elles sont encore protégées au niveau national. La loutre, on a encore beaucoup de choses à faire pour sa préservation. Sa répartition s'améliore, on va dire, sur le bassin de la Loire. Mais ce n'est pas du tout le cas dans d'autres régions. Le bassin Seine n'a ni de castor, ni de loutre. Donc il y a encore des colonisations à faire. Et le castor, quant à lui, donc, se porte mieux. Après, de là à dire qu'on va déclasser une espèce protégée, c'est quelque chose de très compliqué. Après, ce qui a un intérêt pour la chasse du castor, de nos jours, peut-être pas. Ça dépendra de l'évolution des espèces, de leur répartition, et puis du choix des politiques publiques.
Eh bien, je vous remercie, Emmanuel Sarah, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous travaillez à l'ONCFS et que vous êtes ingénieur en charge de la coordination du réseau mammifère du bassin de la Loire. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je crois que vous venez d'Orléans pour venir jusqu'à l'Institut de France à Canal Académie. Et je rappelle le site internet de l'ONCFS sur lequel on peut retrouver une brochure que vous avez éditée justement sur la loutre et le castor. Merci à vous et j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci.